France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Julien Thévenot à la console.
L'heure philo. Patricia Martin, sur France Inter.
L'homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible, écrivait Georges Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune, avant de poursuivre, comme après le déluge, la terre appartiendra peut-être demain aux monstres mous. Sommes-nous ces monstres mous, sous l'emprise de nos émotions, au point d'interdire à nos esprits l'exercice de la raison? Aurions-nous oublié les mots qui traduisent nos sentiments? Des mots pour se construire, pour construire un raisonnement, un discours, une pensée, et allez, n'ayons pas peur des mots, une tempérance.
Rendre communicables des cultures l'une à l'autre, c'est un travail de traduction. Et là, je dirais qu'il y a un projet d'hospitalité langagière qui peut être étendu au-delà des problèmes de traductologie, c'est-à-dire des problèmes techniques de la traduction comme métier. C'est un grand projet de n'être accessible aux uns aux autres que à travers la traduction. Traduction des croyances, traduction des œuvres culturelles. Et ce n'est que par le risque pris d'un double échec que l'on a rendu prisonnier la langue de l'autre dans ma propre langue, ou que moi, je me suis perdu dans la langue de l'autre. Cette idée que la traduction est une trahison, soit de la langue d'origine, soit de la langue de réception. Et donc, c'est en courant ce risque de la double trahison que nous avons un projet donc de fraternité entre individus, mais aussi d'hospitalité langagière étendue non seulement aux langues, mais à ce qu'elles disent, c'est-à-dire à leur message langagier.
Paul Ricoeur, pour ouvrir cette émission, Myriam Revaud-Dallone est notre invitée. Elle est professeure émérite des universités à l'École pratique des hautes études et chercheuse associée au CEVIPOF. Son nouvel essai paraît tout juste aux éditions du Seuil et s'intitule « Passion publique, le tout au pluriel ». Notre époque, Myriam Revaud-Dallone, marque-t-elle l'éclipse du cœur pensant ?
C'est au moins une interrogation, parce que la situation est extrêmement, je dirais, compliquée. Parce qu'au moment même où on dit couramment que les émotions envahissent l'espace public, interdisent l'exercice de la raison, font obstacle au jugement, au moment même où on dit que nous sommes en quelque sorte submergés par nos émotions, au même moment, il y a des manifestations et des expressions collectives de la sensibilité dont on pourrait penser qu'au contraire, elles enrichissent, elles nourrissent la raison publique. Donc, je pense qu'il faut avoir une analyse, je dirais, un peu nuancée, un peu, non pas complexe au sens de difficile, mais disons un peu diversifiée de ce que signifie, au fond, d'un côté, la submersion, en quelque sorte, de la raison par l'émotion, et de l'autre, un ensemble de manifestations où, par exemple, le vécu, la souffrance vécue, l'humiliation, la colère s'exprime et accède, je dirais, au niveau politique, de sorte que on ne peut pas les considérer comme un obstacle à la rationalité.
Il ne s'agit pas de rayer les émotions de la carte, on l'aura bien compris. Il faut simplement peut-être prendre le temps d'élaborer ce que nous ressentons, réfléchir. Autrefois, on disait « tourne ta langue cette fois dans la bouche avant de parler ». Ce serait un peu ça, non ? Ça ressemblerait un peu ça.
Je partirais volontiers de cette phrase de Hannah Arendt qui dit « Pour réfléchir, pour penser, il faut avoir été touché par l'émotion. Et elle dit, le plus grand ennemi de la raison, ce n'est pas la sensibilité, c'est l'insensibilité. Alors, le plus grand ennemi de la raison, c'est ou bien ce qu'on pourrait appeler une espèce de sentimentalité dégoulinante, une expression, effectivement, on est, quand on dit « je suis », on est submergé ou débordé par ces émotions, ou alors une insensibilité totale qui fait que, au fond, la réflexion elle-même est impossible.
Et alors, comme anesthésié, peut-être.
C'est
par
ça.
Les émotions.
Alors,
mais d'un autre côté, il y a aussi Sartre, que vous citez d'ailleurs dans votre essai,
oui.
« Le sommeil de la raison engendre des monstres ».
Oui, ça c'est la phrase « Le sommeil de la raison engendre les monstres », c'est la phrase qui se trouve au-dessous du célèbre dessin de Goya. Alors évidemment, c'est une formule qu'on peut très bien resituer dans le contexte des Lumières, hein, puisque c'est une gravure qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et effectivement, quand la philosophie des Lumières revendique le triomphe de la raison, elle ne le revendique pas contre la sensibilité. Elle revendique le triomphe de la raison contre les autorités établies, contre le dogmatisme de l'Église, contre la monarchie absolue. Mais ça ne veut pas dire du tout que cette raison n'est pas appuyée aussi sur la sensibilité. Alors, surtout en matière politique, quand on prend les grands auteurs du XVIIIe, quand on pense à Montesquieu, par exemple, qui explique que le ressort d'une forme politique, ce sont les passions qui le soutiennent. Par exemple, la tyrannie est mue par la crainte. On voit très bien que c'est très actuel encore aujourd'hui, quand on travaille sur la question de la peur. Et il dit, par exemple, en ce qui concerne la République, parce qu'on ne parlait pas tellement de démocratie à l'époque, il dit c'est l'amour de la liberté et de l'égalité. Et alors Rousseau, c'est très intéressant, parce que Rousseau, qui est l'auteur du Contrat social, qui est un monument, pense-t-on, d'abstraction juridico-politique, puisqu'il s'agit de construire en quelque sorte une société complètement habitée ou gouvernée par la volonté générale, et on s'aperçoit que la volonté générale, au fond, elle, qui est la volonté du commun, elle s'appuie aussi sur des dispositions sensibles. Et alors ces exemples sont très intéressants parce que ils s'opposent à une idée assez convenue. Tous les théoriciens politiques se sont intéressés au rapport entre la raison et les passions.
Et le politique joue de plus en plus,
voilà,
sur les émotions aujourd'hui.
Parce que c'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental. On veut évidemment construire un ordre politique réglé, rationnel, parce que sinon c'est le chaos le plus absolu. Et on considère en face que tout le domaine de l'affectivité est un espèce de chaos qu'il faut absolument organiser. Et alors on parle plutôt en termes de il faut domestiquer les passions, il faut gérer les passions, comme si elles étaient un espèce de résidu qu'il faut, comment dire, mettre de côté, mettre à part. C'est la très belle expression de Rousseau qui répond à Diderot, et Rousseau dit « Mais la volonté générale, elle ne s'exerce pas dans le silence des passions ». C'est une très belle expression, elle ne s'exerce pas dans le silence des passions, elle s'appuie sur les passions. Alors vous voyez, il y a deux points de vue un peu différents. Celui qui consiste à se demander comment on va gérer, comment on va organiser les passions. Et moi, je me pose un peu une autre question. C'est-à-dire, au fond, comment les passions peuvent-elles soutenir ou être l'assise d'une société, en particulier la démocratie, qui est une dynamique vivante en même temps, et pas simplement un ensemble de procédures institutionnelles. Et là, si vous voulez, là, on voit bien aujourd'hui, quand on parle de la crise de la démocratie, on voit bien combien la formule de Montesquieu est importante. Quand il dit, il y a les formes politiques, et ces formes politiques, elles s'appuient, elles prennent appui sur, il utilise le terme de ressort, elles s'appuient sur un moteur. On appelle ça au XVIIIe les passions, et moi j'appelle ça au fond un socle existentiel qui, comprend les émotions et les affects. Et c'est plutôt de ce point de vue-là, où c'est là-dessus que je m'interroge.
Cynthia Fleury, il y a des ferments, encore une fois, le conspirationnisme, le complotisme, le populisme, le fascisme, sont des choses différentes. Pourtant, elles ont en partage le fait de céder sur la pulsion ressentimiste, d'être construite autour de la pulsion ressentimiste et de considérer qu'il y a des victimes d'un côté et de l'autre côté, des bourreaux. Et que donc, on va pouvoir rétablir une justice en détruisant ces bourreaux. Et le conspirationnisme est une vision, tout simplement, à l'échelle systémique de cette manière de voir les choses. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui très clairement, de manière globale, sur les réseaux sociaux, et dans le débat public, c'est une radicalisation du débat public, une binarisation. Et ça, ce réductionnisme-là, il est typique des sociétés ressentimistes. Donc, très clairement, quand nous pratiquons cet usage-là des réseaux et quand nous pratiquons cet usage-là du débat public, nous renforçons la pulsion ressentimiste.
Myriam Revaud-Alloun, c'est intéressant ce que dit Cynthia Fleury justement de ces réseaux sociaux et de ce qu'ils peuvent avoir de pire, c'est-à-dire au fond une indifférence, une certaine indifférence à la vérité. Les réseaux sociaux, ça fragmente les opinions et les sentiments. Du coup, ça les rend absolument impartageables dans un espace public. Et ça crée du ressentiment. Ressentiment qui n'est pas la colère.
Absolument. On a effectivement l'un des problèmes... Enfin, je ne dirais même pas du débat public, parce que ça interdit le débat public. Ça n'est pas dans le débat public, c'est la fragmentation, la fragmentation des opinions qui fait que l'usage du le débat public, c'est la capacité à échanger des opinions, des désaccords dans un espace où, je dirais, les citoyens et les hommes en général considèrent qu'ils partagent un monde commun. À une reconnaissance mutuelle et qu'ils se reconnaissent les uns les autres je dirais, des semblables. Des semblables, même quand ils ne se ressemblent pas, parce que c'est pas la même chose, le semblable et celui qui me ressemble. C'est vrai que les réseaux sociaux opèrent, mais ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. C'est un vecteur parmi d'autres. Ce sont l'un des vecteurs de ce qu'on appelle aussi maintenant la polarisation affective. La polarisation affective, ce n'est pas du tout le conflit. Parce que le conflit démocratique, c'est précisément cette culture du désaccord qui fait qu'on échange des opinions extrêmement divergentes, quelquefois très opposées, mais qu'il y a une espèce de, comment dire, de sol commun qui permet, comment dire, au fond, que l'on se reconnaisse comme humain et comme semblable, et qu'à partir de là, on discute.
Soyons fous, est-ce qu'on pourrait appeler ça l'amitié ? L'amitié qui serait une sorte de choix délibéré de vivre ensemble, ce que les Grecs, parce que vous passez beaucoup par les philosophes grecs, l'amitié politique, c'est la philia, c'est
absolument
comme ça que vous appelez ça.
Et alors, ce qui est très intéressant, pour moi, je me réfère beaucoup à la philia, parce que la philia, c'est pas l'amitié au sens où nous l'entendons maintenant, c'est-à-dire une amitié entre personnes, entre individus,
avec des affinités.
Mais, voilà, les affinités, alors que l'amitié, dit Aristote, c'est le sentiment politique par excellence. Et la communauté, elle est mue par la philia. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence entre la philia, l'amitié et l'amour. Dans une cité, les citoyens ne sont pas obligés de s'aimer. La cité n'est pas une famille. Donc ce qui fera dire, par exemple, à Hannah Arendt que l'amour n'est pas un sentiment politique. C'est en ce sens-là qu'elle le dit. On n'est pas obligé de s'aimer pour coexister dans la même cité.
Et on ne fait pas une cité à partir du même.
Voilà, hein, on ne fait pas une cité à partir du même, on fait une cité à partir du dissemblable. Et donc c'est très intéressant, au fond, de réactiver le sens de la philia, qui au fond n'implique pas des rapports interpersonnels, mais une relation au commun. C'est-à-dire, quand on coexiste dans une cité, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'organisation politique, ou qu'est-ce que c'est qu'un... Enfin, je ne trouve pas de meilleur mot que de dire une cité. Bon, parce que je pense que ça s'applique encore aujourd'hui. Ben, c'est une organisation de la coexistence humaine. Et cette organisation de la coexistence humaine, elle ne se fait pas simplement avec des procédures. Elle ne se fait pas simplement une société politique... n'est pas simplement une société qui est définie par l'organisation de son pouvoir. Elle est aussi définie par une manière de vivre ensemble, par des relations que les citoyens entretiennent les uns avec les autres. Alors ce qu'on voit aujourd'hui aussi avec notamment les réseaux sociaux, c'est une fragmentation de ce lien qui permet aux individus de vivre les uns avec les autres.
Myriam Revaud-Dallone, vous êtes donc notre invitée à l'occasion de la parution de votre essai « Passion publique publiée au Seuil », qui est une réflexion autour finalement du grand partage de la raison et du sensible et de l'intelligible, de la raison et des passions. C'était les Beatles, faut-il le préciser. Antoine Lilti, lui, il est professeur au Collège de France, spécialiste de la période des Lumières et de l'héritage qui est le sien dans le monde politique d'aujourd'hui. Antoine Lilti.
On disait les Lumières, c'est la liberté d'expression. Ouais. Donc, voilà. Mais on voit bien qu'en réalité, la liberté d'expression inconditionnelle, la liberté d'expression absolue, c'est Elon Musk, c'est Twitter, X. Et en réalité, les Lumières, si on revient au XVIIIe siècle, ça n'a jamais été la liberté d'expression inconditionnelle. Aucun philosophe des Lumières n'a jamais plaidé pour la liberté d'expression inconditionnelle. Les Lumières avaient, au contraire, savaient très bien que la liberté d'expression inconditionnelle, c'était une aubaine pour les démagogues, c'était une aubaine pour les charlatans. Non, au contraire, c'était l'idée d'un espace public régulé. C'est ça la grande idée, c'est évidemment liberté d'expression, c'est la condition, mais à l'intérieur de cette liberté d'expression, la possibilité de réguler, de contrôler l'espace public pour prendre le temps et permettre cette délibération et permettre aux citoyens de s'instruire, de se former et d'être capable justement de s'éclairer. Mmh. C'est ça la grande idée. Et par ailleurs, sans doute, ce qui est important aussi dans les Lumières, au cœur des Lumières, il y a l'idée d'esprit critique. Et trop souvent, je trouve qu'aujourd'hui, on a une évolution où les Lumières deviennent un peu un argument d'autorité. Oui. Il y a presque un langage conservateur aujourd'hui des Lumières. Et je pense qu'il faudrait renouer avec cette idée, justement, critique des Lumières, y compris autocritique.
Myriam Revaud-Dallone, c'est intéressant parce que vous avez déjà parlé un peu des philosophes des Lumières tout à l'heure, mais vous en parlez longuement dans votre livre et ça vaut vraiment la peine justement qu'on s'y attarde. D'abord, quand on dit les Lumières, tous les philosophes des Lumières, on est bien d'accord, c'est pas un bloc homogène.
C'est pas du tout un bloc homogène.
Ils n'étaient pas tous d'accord entre eux.
Absolument pas.
Bon, est-ce qu'ils ont à un moment donné, est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a un mouvement anti-lumière, etc., aujourd'hui, beaucoup, vous allez nous donner votre point de vue là-dessus, mais est-ce qu'ils ont trop exalté la raison à un moment donné? Est-ce qu'on peut leur faire ce reproche?
On est tous d'accord pour dire, il est utile le premier, que les Lumières ne sont pas un mouvement homogène. Moi, je me suis occupée essentiellement de les Lumières au prisme politique, pas tellement au prisme des idées, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais au prisme de la politique, alors on peut toujours considérer que Rousseau est un odeur un peu dissident par rapport aux Lumières, à cause de l'accent qui est mis sur la sensibilité. Mais on ne peut pas dire, en règle générale, que les Lumières aient exalté la raison, par exemple, au détriment du sentiment. On voit très bien, par exemple, que la littérature intime, que la littérature qui parle en première personne se développe beaucoup au moment des Lumières.
Et que Rousseau lui-même, il y a le contrat social,
voilà,
il y a aussi les rêveries du promeneur solitaire.
En même temps, il écrit les rêveries du promeneur solitaire, les confessions. Ils ont tous, je dirais, des positions des écritures extrêmement variées. Et alors, je pense qu'il y a une espèce de perversion interprétative qui consiste à dire qu'ils se sont attachés à une raison dogmatique, alors qu'au contraire, ils ont critiqué le dogmatisme. Et ils ont critiqué le dogmatisme, par exemple le dogmatisme religieux, le dogmatisme théologique, le dogmatisme de l'autorité établie. Et donc, d'une certaine façon, quand on met en branle l'esprit critique, on ne s'appuie pas sur l'autorité d'un rationalisme étroit. Au contraire, quand on mobilise l'esprit critique, on mobilise aussi les éléments du présent. Et Lilti a raison d'insister aussi sur le fait que on réactualise constamment les Lumières et que le fait maintenant de les figer comme une espèce d'argument d'autorité revient au fond à annuler leur portée effective, comme si on avait une espèce de monument dont on se réclame au fond pour critiquer tout ce qui relève de l'esprit critique des Lumières. Il y a une espèce de paradoxe ici, en fait.
Mais il y a quelque chose que dit, qu'écrit Montesquieu, qui me paraît très intéressant, qui est que, tristement visionnaire, mais il faut toujours rester sur le qui-vive dans une démocratie. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier du calme.
Absolument.
Qui peut se régner sur un État.
Absolument. Je trouve que c'est une phrase absolument magnifique où il dit chaque fois qu'on verra la tranquillité régner dans un État, on peut être sûr que la liberté n'y est pas. C'est une phrase magnifique, parce que ça fait référence aux passions qui sont le ressort de la dynamique de cet État. Et c'est une critique à la fois du despotisme, mais c'est aussi implicitement une critique d'une société qui ne serait régie que par la rationalité des institutions. C'est implicitement une critique d'une société qu'on n'apprécierait que parce qu'elle fonctionne de telle ou telle manière. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière cette formule de Montesquieu, c'est ce que dit aussi Rousseau, c'est-à-dire il dit que l'agitation est une très bonne chose. L'agitation est une très bonne chose parce qu'elle témoigne de la liberté des citoyens qui y vivent. C'est extrêmement actuel. Quand on dit le pouvoir n'est pas dans la rue, ça veut dire qu'on nie à l'expression, on dénie à l'expression publique, y compris quand elle est mue par des sentiments, par des affects, on lui dénie la capacité, au fond, d'agir en tant que citoyen.
Les sentiments,
tout ça est très actuel.
Les sentiments démocratiques sont toujours finalement ambivalents, instables. C'est un peu ce qu'a dit Tocqueville aussi.
Tout à fait. Tout à fait, parce que Tocqueville, qui d'un côté, au fond, dresse un tableau extrêmement mitigé des passions démocratiques, dit en même temps, il le dit à la fin de la démocratie en Amérique, que malgré tout, la démocratie est la seule forme de société qui permette, par cette agitation, au fond, de témoigner de la liberté. C'est au fond, il est dans l'agitation et d'une certaine façon, le témoignage de la liberté.
C'était en mai 2023, le président de la République, Emmanuel Macron.
Ce que je dis, c'est que nos sociétés sont en train de perdre un certain rapport à la civilité, à la décence, au respect de l'autre. Et c'est un fait. Et on s'habitue progressivement à une violence langagière, à des attaques aux biens, puis à des attaques aux personnes, en les légitimant par tel ou tel soubresaut de combat ou d'actualité. Or, il y a dans le processus de civilisation quelque chose qui va avec la vie en commun, qui fait que même si je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous répondre poliment, je vais essayer de dialoguer, de vous convaincre, en tout cas d'expliquer ma position de la manière la plus claire, mais je ne vais pas me mettre à vous insulter. Et il y a un changement anthropologique qui est à l'œuvre. Les réseaux sociaux, à coup sûr, y jouent un rôle, parce qu'ils ont recréé une société où l'anonymat a repris de la place, et où les messages, en quelque sorte, claquent, et où le rapport aux autres peut être un rapport, en quelque sorte, d'insultes, de raccourcis, de simplifications. Et quand ces pratiques s'exportent, d'abord en soi je considère qu'elles ne sont pas satisfaisantes, donc on a besoin de créer des mœurs communes et un ordre public qui permet une vie démocratique dans nos réseaux sociaux, quand en plus ça devient la réalité dans la rue et qu'on a des comportements à l'école, dans la vie au travail, dans la rue qui prennent les mêmes codes, eh bien oui, on régresse. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris et qui a fait de nous une société basée sur le respect, une société démocratique, où l'opinion publique se forge sur la base de la raison et de la science, nourrie sur la contradiction, mais où le respect et la fin de la violence va avec le fait que, à la fin, on a des processus qui tranchent nos désaccords. Le vote, l'élection, etc. Si on considère qu'à ce moment-là, l'insulte ou la violence permet de les trancher, c'est une régression, c'est une décivilisation.
Décivilisation, le mot est employé, c'est un mot de Norbert Elias, qui était sociologue, qui est mort il y a plus de 30 ans maintenant, et qui a écrit d'ailleurs un livre important sur le processus de civilisation, et qui réfute l'idée justement qu'il y aurait un progrès éternel que nous porterions, nous, ici en Occident. Myriam Revaud-Allône.
Alors c'est très intéressant, ces usages abusifs ou erronés ou dévoyés du mot civilisation et du mot décivilisation. Faut pas oublier que en France, le mot décivilisation, il a été importé par un idéologue d'extrême droite qui s'appelle Renaud Camus, et que Peter Thiel, d'ailleurs, ces jours-ci, au moment de sa visite à l'Académie des sciences morales et politiques, est allé voir. On a appris que Peter Thiel est allé rendre visite à Renaud Camus, ce qui n'est pas rien. au fond, qu'est-ce que c'est pour Renaud Camus que la décivilisation ? Eh bien, c'est essentiellement l'effondrement des mœurs, l'effondrement de la culture traditionnelle, et tout ça étant dû, évidemment, aux invasions migratoires. Donc la décivilisation, dans ce vocabulaire dévoyé, c'est le fait d'une barbarie qui vient de l'extérieur, et d'un retour à une violence archaïque. Quand on lit Norbert Elias, d'abord on constate que le processus de civilisation ne porte en lui aucun jugement de valeur. Et que le processus de civilisation, c'est simplement le fait qu'avec l'avènement de l'État moderne, avec les processus de rationalisation et de concentration politique, avec le fait que, par exemple, c'est l'État qui détient le monopole de la force légitime et qui retire donc aux individus l'usage de la violence, eh bien, il y a une sociabilité de plus en plus policée, de moins en moins d'agressivité, et l'établissement, au fond, de normes qui permettent la coexistence entre les hommes. Et c'est ça, la civilisation. Ça n'est pas le progrès, parce qu'il y a des ruptures civilisationnelles, et ça n'est pas non plus l'Occident. C'est-à-dire que Norbert Elias a eu comme terrain, il a parlé de l'Occident, mais il a dit très clairement que le processus civilisationnel n'était pas l'apanage de l'Occident. Et le seul moment, c'est ça très important, où il a utilisé le terme de décivilisation, c'est au moment de l'Allemagne nazie.
Voilà, c'est ça, parce que quand vous parlez de rupture, il y a des poussées décivilisatrices, il y a le nazisme, mais on peut prendre d'autres exemples, et d'ailleurs vous le faites dans votre essai.
Voilà, et c'est vraiment, alors c'est le seul moment dans son œuvre où il a parlé d'effondrement civilisationnel, il a utilisé le terme de décivilisation, et il a écrit ce texte absolument extraordinaire un peu après le procès Eichmann, après 1962. Alors, il a une analyse de long terme, il essaye de montrer comment les conditions historiques et politiques en Allemagne ont favorisé une sorte, au fond, de soumission à l'autorité, dans la mesure où il n'y avait pas une sorte de frustration permanente par rapport à ce qu'avait été la grandeur de l'Allemagne au moment, par exemple, du Saint-Empire romain germanique. Il parle de l'histoire d'un pays qui a été marqué par des violences comme la guerre de 30 ans, qui un pays absolument ravagé aussi par les conflits entre les seigneuries, et un pays qui n'a fait son unification au fond qu'avec l'empire bismarckien, c'est-à-dire avec un empire autoritaire. Donc, je passe les détails, mais il y a toute une histoire très intéressante de l'accoutumance à l'autorité sur le long terme. Et puis, l'homme providentiel, Hitler, répond d'une certaine façon à l'aspiration des Allemands qu'on va les sauver. Et indépendamment de cela, ce que Elias analyse de manière extraordinaire, c'est la combinaison d'une rationalité industrielle absolument extraordinaire, par exemple la machinerie industrielle qui conduit à exterminer, c'est pour ça qu'il a écrit au moment du procès Eichmann, à exterminer massivement les juifs dans les camps d'extermination, et en même temps une insensibilité totale au visage, à l'autre, en tant qu'il est différent. On a un exemple filmique extraordinaire, très récemment, qui est La Zone d'intérêt, le film de Glaser, qui est tout à fait extraordinaire, où on voit comment les individus ordinaires sont marqués par une insensibilité absolument, totale à l'égard de ceux qui sont de l'autre côté du mur. Et alors, au fond, ce que dit Elias, et qui est très difficile à intégrer, c'est que ce ne sont pas des barbares, ce ne sont pas des sauvages qui ont accompli ces actes. On sait que les Allemands sont l'un des peuples les plus civilisés, mais ce sont des hommes modernes, c'est-à-dire des hommes, et là on en revient aux Lumières, des hommes doués d'autonomie, c'est le grand mot des Lumières, des hommes libres, qui ont d'une certaine façon accepté que s'effondrent ces normes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des barbares venus d'ailleurs qui étaient étrangers à ces normes, mais ce sont des hommes autonomes et libres qui ont consenti, d'une certaine façon, à la fois à l'effondrement de la raison, à l'effondrement de leur sensibilité et à l'effondrement de la morale. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'à partir de là, on peut se demander si nos démocraties sont protégées absolument de ce type d'effondrement. Et ce n'est pas du tout ce qu'on dit d'habitude sur la décivilisation. Hein, c'est pas ce que dit Macron, au fond, c'est extrêmement superficiel. Bon, c'est dire il y a de la violence, donc c'est de la décivilisation. Et Elias dit, mais c'est pas parce qu'il y a un processus de civilisation que la violence disparaît. Il dit, elle est reléguée au fond des casernes.
Michel Foucault.
On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale.
Myriam Revaud-Allonne, la question qu'on peut se poser, c'est où le pouvoir s'exerce-t-il aujourd'hui ? Dans quelle sphère ? Puisque Michel Foucault a un peu ouvert la voie, là.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec...
Non, mais alors dites pourquoi.
Mais pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Foucault. D'ailleurs, ensuite, il a nuancé sa position. Parce que là, c'est un texte où Foucault s'en prend globalement à toutes les institutions parce qu'elles sont des lieux de diffusion d'un pouvoir qui s'exercerait, au fond...
Du haut vers le bas.
Du haut vers le bas. Or, pour moi j'ai une conception du pouvoir un peu différente. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a un axe vertical du pouvoir. Mais il y a aussi le pouvoir tel que l'entend par exemple Hannah Arendt, c'est-à-dire le pouvoir, c'est aussi un agir ensemble. Mm-hmm. Il y a une dimension horizontale du pouvoir. Et il y a un moment où, au fond, le pouvoir vertical rencontre nécessairement le pouvoir horizontal. Il le rencontre nécessairement parce que Foucault parle de l'obéissance, mais il y a aussi la désobéissance. Il y a la résistance, il y a toutes sortes de...
Mais quand elle peut s'exercer, cette désobéissance ? Parce que si on prend l'exemple au hasard de Donald Trump, comment est-ce que vous pouvez considérer les choses ? Là, le pouvoir vient bien d'en haut. Et peut s'immiscer là-dedans aussi une certaine terreur.
Bien sûr.
Alors, quand il y a une idéologie de la terreur, parce que et qu'on fabrique une sorte de monde fictif, mais... que peuvent faire les résistants qui sont à la
non,
base ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Mais l'erreur de Foucault, c'est de parler du pouvoir en général et de ne pas mentionner que le pouvoir ne s'exerce pas de la même façon en démocratie, dans un régime autoritaire ou dans un régime qu'on appelle illibéral. C'est ça l'erreur de Foucault sur le pouvoir. C'est une abstraction telle qu'il le après bon il revient un peu sur cette position, mais c'est une espèce espèce d'abstraction qui le pouvoir est partout, le pouvoir est nulle part. C'est pas vrai. Hein, le pouvoir s'exerce de manière différente selon l'idée qu'on se fait de la politique et selon la façon dont on définit. Alors là, par exemple, la démocratie, on peut la définir comme le type de société où la critique du pouvoir est légitime. Et à partir de ce moment-là, la critique du pouvoir est absolument légitime, où le fait où la contestation des actes du pouvoir est légitime, ça se fait aussi bien par le vote que par, les contre-pouvoirs, que les manifestations dans la rue. Alors, Trump, manifestement, il s'assied sur les contre-pouvoirs, on le sait. Il contrevient, on le voit dans toutes les décisions, à toutes les normes, je ne parle pas ici de l'aspect psychologique personnel du personnage, mais alors, qu'est-ce qu'on voit quand même là, qu'est-ce qu'on a vu récemment, c'est la résistance à Minneapolis. Hein, c'est-à-dire, il y a un moment où même dans un régime... je ne sais même pas comment le qualifier, c'est plus une démocratie.
Il y a quelques principes qu'on ne peut pas jeter.
Voilà.
C'est un peu ça.
C'est-à-dire qu'en fait, au fond, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a quelque chose dans cette résistance à Minneapolis qui est aussi d'ordre sensible. C'est très important. Parce qu'il y a un mécanisme de solidarité, il y a une indignation qui fait que ce n'est pas simplement parce qu'ils ont été touchés à titre personnel, mais parce qu'on a déjà vu ça au moment de manifestations comme Black Lives Matter, mais là, on a vu véritablement, et alors ce qui est quand même intéressant, c'est que momentanément, Trump est obligé de reculer. Alors le problème, c'est de savoir s'il recule parce que la bourse s'effondre, ou s'il recule parce qu'on lui résiste. Mais voilà.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Allez, on va y croire. La vie est belle, Karen Anne.
Tu regrettes la chaude lueur du vin, les feuilles mortes entre tes larmes de poète. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois quand tu te révèles, que la vie est belle, bien que surréelle. Tu t'en rappelles? Je n'y comprends rien à ce vide immense. L'ordinaire a disparu. Même dans ton chagrin, bouge et danse, brille un soleil absolu. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois quand tu te révèles, que la vie est belle, bien que surréelle.
Myriam Revaud-Allaune, vous êtes l'invitée de L'Heure Philo. Pouvoir vertical, pouvoir horizontal, quelquefois mu par la colère, quelquefois une colère saine, quelquefois une colère proclamée. Parfois, ça peut aller jusqu'à la désobéissance. Si on prend l'exemple de la France, les manifestations qu'il y a eu, donc le pouvoir de la rue, là, on peut penser aux gilets jaunes, aux manifestations au sujet de la retraite. On peut même, si c'est lointain comme sujet, mais parler de MeToo aussi. Tout ça, ça fait une vie démocratique, au fond, vivante, productive.
Oui, tout à fait.
Et les émotions n'y sont pas étrangères.
Oui, absolument. Et alors, ce qui est très intéressant dans ces manifestations, qui ont d'ailleurs ont déjà commencé à émerger il y a une vingtaine d'années, dans les années 80, en fait, ce sont des manifestations qui sont mues par le vécu. Par exemple, quand on prend les gilets jaunes, on avait beaucoup de mal au début à comprendre de quoi il s'agissait, tellement les revendications étaient, au fond, assez confuses, hétérogènes, et les questions d'un peu... on voit bien, il y a eu un très grand embarras des commentateurs, est-ce qu'ils étaient à gauche, à droite, etc., d'où ils venaient. Et en fin de compte, l'unité, là, le seul lien qui les unissait, c'était les affects, l'affectivité, l'émotion, etc. Alors, évidemment, ça suffit pas pour organiser un mouvement, mais ça peut faire émerger. Par exemple, quand les gilets jaunes se réunissaient autour des ronds-points, eh bien, ils disaient eux-mêmes que c'était la première fois qu'ils pouvaient échanger, qu'ils pouvaient se rassembler. Donc, il y avait ici une espèce de manière, au fond, de faire du commun, de se rencontrer, qui est extrêmement intéressante. Bon, ensuite, que le mouvement ait échoué, faute d'objectifs clairs, et surtout parce qu'ils refusaient absolument toute instrumentalisation politique, mais ils ont quand même laissé des traces. Et les traces, c'était les cahiers de doléances. Ça a été la convention pour le climat, ça a été le grand débat, et ça aurait pu donner quelque chose. Alors, il y a une responsabilité du pouvoir, aussi, face à ça, d'avoir complètement enterré, d'une certaine façon, ce qui aurait pu enrichir la dynamique démocratique. Donc, on ne peut pas non plus... il y a les responsabilités... Enfin, on peut critiquer les gilets jaunes parce que ça n'a pas... au fond, parce que ça manquait de cohérence ou de... Mais ça, d'une certaine façon, ça a été une expérience et, au fond, c'est de la responsabilité du pouvoir de n'en avoir pas tiré. Alors, évidemment... Quand les choses se passent comme ça, qu'est-ce que les citoyens éprouvent ? Du ressentiment, de la colère, enfin d'une colère qui est captée par les populismes. C'est absolument évident. Alors, un cas intéressant qui est celui de MeToo, qui n'est pas tout à fait du même ordre, qui est très intéressant, où on voit comment des revendications issues, elles aussi, du vécu, d'expériences individuelles vécues, se sont regroupées. Comment elles se sont regroupées collectivement, comment elles ont convergé et comment elles ont fait émerger un problème fondamental qui est celui de la domination masculine, mais elles l'ont fait émerger comme un problème politique. Et au fond, elles ont concrétisé ce que disait Françoise Héritier, qui disait « Mais le problème de la domination masculine, c'est l'un des problèmes majeurs, l'un des problèmes politiques majeurs de notre époque. »
Et d'un mot pour terminer, émotion et émeute, n'oublions pas que point de vue étymologique,
c'est la même racine étymologique, ça veut dire qu'au fond, quand on travaille sur l'émotion, il faut travailler sur ses consonances politiques.
Eh bien, nous nous quitterons sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Allaune. Je rappelle donc le titre de cet essai absolument passionnant. Enfin, nous l'avons lu dans l'équipe avec énormément d'intérêt. Passion publique au pluriel. Et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous.
Merci.